Moi, j'ai été très clair dès dimanche soir, je l'ai dit. Aujourd'hui, seule l'extrême droite est en mesure d'avoir une majorité absolue dans l'Assemblée nationale. La LFI, le nouveau Front populaire, ne peuvent pas, quoi qu'il arrive, avoir une majorité absolue. Donc l'alternative, elle est claire. Soit l'extrême droite a une majorité absolue et applique un projet qui serait terrible pour le pays, parce que ce n'est pas nos valeurs et parce que ça serait une catastrophe économique. Soit il y a une assemblée plurielle avec différentes forces politiques qui sont représentées. Et je souhaite évidemment que les candidats Ensemble pour la République soient bien représentés.
Qui gouvernera la France après le second tour des législatives si aucun camp ne remporte la majorité absolue? Ça reste une question très importante et c'est l'équation du moment. Rassemblement des démocrates, coalition des modérés, alliance des droites dont le RN. Plusieurs propositions sont donc déjà sur la table et le Premier ministre en a donc détaillé. Vous venez de l'entendre il y a quelques instants. Il évoque désormais une majorité dite plurielle et il a donc de nouveau défendu cette idée aujourd'hui. Alors majorité plurielle, une idée ou une sorte de voile de fumée? Rodrigo Arenas est resté avec nous, député sortant. Je le rappelle, LFP, NFP, donc à nos côtés. Nous sommes rejoints par Caroline Janvier, qui est députée sortante Renaissance du Loiret, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, et Roselyne Bachelot, qui nous rejoint avec Christophe Barbier. Christophe, majorité plurielle, c'est un nouveau nom pour une idée nouvelle ou c'est du vide qu'on essaie de remplir ?
Assemblée plurielle est la première expression employée. Assemblée plurielle, on voit bien, ça sera un arc-en-ciel incroyable, avec d'ailleurs peut-être beaucoup de sous-groupes. On voit bien que les macronistes, maintenant, on va avoir des sous-groupes qui seront assez divergents oui. Après cet épisode de la dissolution. On ne sait pas si le Front populaire ne va pas aussi se scinder. Pourquoi n'y aurait-il pas un groupe LFI dissident ou LFI parallèle? Donc on aura sans doute un arc-en-ciel beaucoup plus riche et complexe que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Est-ce que de cette assemblée plurielle peut sortir une majorité plurielle? Regardons l'arithmétique. Il est peu probable que de Boris Vallaud à Laurent Wauquiez, ça fasse une majorité de 289. Est-ce qu'on peut élargir cette majorité à gauche en allant jusqu'au LFI? On a du mal à imaginer un programme commun, même réduit à minima, oui, qui fasse voter sur les mêmes textes Louis Boyard et Laurent Wauquiez. Donc là, ça ne tient pas. En revanche, on peut avoir une majorité plurielle qui soit relative, oui, et même qui soit presque une minorité plurielle, mais assez plurielle pour qu'à aucun moment il y ait une majorité contre celle-ci. Je m'explique. Oui. Vous pouvez avoir dans la Ve République une majorité qui est pour un gouvernement, c'est ce qu'on a connu souvent, mais vous avez parfois des gouvernements qui n'ont pas de majorité contre eux.
Oui.
C'est ce qu'on a vu pendant 2 ans où il n'y a pas eu finalement de motion de censure qui a été votée, ni contre Elisabeth Borne, ni contre Gabriel Attal. Est-ce qu'il pourra y avoir, si on sort dimanche avec une majorité introuvable, un gouvernement assez composite ou assez neutre ou assez technique, pour qu'il n'ait pas de majorité avec lui, mais pour qu'il n'ait surtout aucune majorité contre lui. C'est-à-dire qu'il passe entre les éclairs des motions de censure.
Bon, alors, Christophe vient avec beaucoup de talent essayer de nous intéresser à une notion qui peut paraître complètement floue. Ben oui, mais c'est pour ça que je me tourne vers vous. Femme de bon sens.
Des coalitions.
On appelle ça la coalition des modérés.
Des coalitions, il y en a dans tous les pays d'Europe. Mais en général, les coalitions, elles se passent avant les élections. Et c'est ça qui permet, oui, de bâtir un programme. On regarde par exemple la coalition de la Chambre allemande qui conduit à un gouvernement de coalition. On voit que c'est quelque chose qui est très construit, avec un programme qui fait quelquefois 60 pages, où on dit on passera le salaire minimum à temps, dans tel délai, etc. Tout ça est vraiment cadré. C'est la constitution de la Ve République qui fait que l'exécutif est détenu par le président de la République qui est élu au suffrage universel et il est le seul élu de ce pays qui soit élu au suffrage universel total.
Oui.
Donc il a un impérium à nul autre pareil. L'exécutif allemand ou l'exécutif d'une autre coalition en Espagne, il est issu du Parlement. Et c'est ça qui permet le bon fonctionnement des institutions, enfin, le fonctionnement d'une majorité plurielle. Et ça pose la question qu'à partir du moment où nous aurons un Parlement ingouvernable parce qu'il y aura de toute façon c'est tout à fait, oui, extraordinaire. On a à la tête de LFI, à la tête du RN, les deux personnalités les plus détestées des Français quand on regarde le coefficient de haine, largement devant Monsieur Macron. Donc évidemment tout ça devient très compliqué dans le système de la Ve République qui était un système biparti.
Donc si je vais au bout de votre logique, l'Assemblée plurielle se fait forcément sans ces deux formations. Caroline Janvier,
biparti dominant.
Des groupes politiques différents qui se mettent d'accord d'accord sur des textes de loi pour les faire passer. C'est exactement ce qui se passe depuis 2 ans à l'Assemblée, non ?
Oui, tout à fait, avec une situation un peu différente, puisque nous avions un bloc majorité présidentielle suffisant pour imposer ou proposer des logiques de ralliement. Là, la vraie difficulté, ça va en effet être de poursuivre ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire les désistements qui montrent qu'en réalité, il y a un adversaire politique commun qui est le Rassemblement national. Et l'enjeu, ça va être au soir du 7 juillet d'arriver à former une majorité concurrente au groupe RN pour désigner la présidente ou le président de l'Assemblée nationale. Et à partir de là, ça va être à mon avis le premier objectif avant l'ouverture de la session ordinaire, je crois que c'est autour du 12 juillet.
Empêcher le Rassemblement national de présider l'Assemblée ?
Tout à fait. Et de détenir les postes clés, les vice-présidences,
C'est tout point, de toute façon.
Et je pense que l'Assemblée nationale va quand même redevenir le centre de gravité de la vie politique, puisqu'une fois qu'on a déterminé le barycentre, finalement, politique de l'Assemblée, donc qui serait concurrent au Rassemblement national, de là peuvent découler, en effet, la couleur politique du gouvernement et donc une feuille de route. Ça va être compliqué, mais ça peut aussi, à mon avis, être intéressant et forcer les députés à faire ce que nous n'avons pas su faire depuis 2 ans et ce que font d'autres démocraties.
Bernard Sananès, cette idée d'Assemblée plurielle, est-ce qu'elle fait référence à des choses qui existent dans d'autres pays, notamment ? Et qu'est-ce qu'elle vous inspire comme commentaire et comme analyse, vous qui sondez les Français à longueur d'année ?
D'abord, en tant que citoyen, malgré tout le talent de Christophe, pour moi, l'Assemblée plurielle, je ne comprends pas. L'Assemblée est plurielle. Oui. Elle est plurielle. La majorité peut être plurielle, ça c'est un vrai concept. Non mais en fait, ce n'est pas Christophe que je visais, c'est ceux qui ont tenu ces propos.
Elle est plus illisible que plurielle.
L'Assemblée est toujours
Nous a expliqué avec beaucoup de talent quelque chose d'incompréhensible.
Elle est par nature plurielle. On a même vu en 2022, au scrutin majoritaire, élire une assemblée qui ressemble plus à une assemblée composée au mode de scrutin proportionnel qu'au scrutin majoritaire. Donc c'est vrai que le concept me semble un peu vague, comme ça, premier point. Deuxième point, vous me demandez les personnes que nous interrogeons.
Oui.
Je ne vais pas les parler pour eux parce que c'est un peu tôt. Mais bon, les désistements, la politique, ils savent très bien que ça existe, que ça a toujours existé et que ça continuera à exister. Mais c'est vrai que quand on parle d'alliance, de désistement, je pense que la personne qui nous regarde doit se dire, mais tout ça, mais pour faire quoi en fait. Et ça, je trouve que c'est peu abordé depuis dimanche. Le projet, alors ça peut être 5 mesures, ça peut être 60, ça peut être 110 propositions. Mais c'est vrai que cet aspect-là, dans le spectacle politique qu'on a depuis dimanche, et encore une fois, qui est tout à fait normal, je ne dis pas ça pour tomber dans un poujadisme facile de dire c'est les politiques qui font ça, c'est de la magouille. Non, c'est normal, on s'allie.
Oui, on négocie, on essaie de trouver des alliances, d'idées.
Pour répondre à votre question, et je rejoins là complètement Roselyne Bachelot, c'est vrai que dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle des accords de gouvernement. Ces accords, d'ailleurs, ils mettent des semaines pour être négociés, parfois des mois. Ils prennent du temps, il y a des négociations de fond. Il y a des négociateurs. Là, on voit bien les négociateurs qui ont négocié les désistements, ceux qui négocient les programmes, on les voit moins à l'œuvre pour l'instant.
Que vous inspire cette notion d'assemblée plurielle ? Est-ce que c'est un piège ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut tenter quand un pays connaît une secousse très importante, je rappelle, voire une crise de régime ? 10 millions de Français viennent de voter pour le Rassemblement national. Historiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant.
Je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'une grande majorité n'a pas voté pour eux, ce qui ouvre comme des perspectives de travail.
Ça vous rassure de le présenter comme ça, et je vous comprends.
Non, ça ne me rassure pas parce que ce n'est pas une question de se rassurer.
Ils ont voté plus pour eux que pour n'importe quelle autre formation.
Ils étaient 12 millions à l'élection présidentielle.
Je tiens à rappeler quand même que la majorité...
Au second tour.
Oui.
La majorité qui avait été menée par Emmanuel Macron était déjà une majorité plurielle. Entre le MoDem, Renaissance, Horizon, etc., il y avait des choses en commun, il y avait aussi des choses qui se séparaient. Il y a eu d'ailleurs, vous le savez, parfois le MoDem qui a tenu la dragée haute à des propositions de loi ou des réformes que vous souhaitiez mettre en place. Il y a eu le groupe Lyotte aussi.
C'est pas toujours facile, hein, oui.
Mais ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile de trouver un point de consensus et un point d'équilibre. Moi, j'ai voté des lois émanant de votre majorité, madame, vous le savez, qui étaient, j'ai envie de dire, c'est pas du bon sens. C'est de la responsabilité. Donc effectivement, vous avez eu un jeu médiatique ces dernières années qui focalisait sur les moments les plus exacerbés de l'Assemblée nationale. Mais la grande majorité du temps, ça se passe plutôt bien. On arrive à se parler, on arrive à discuter, on arrive à voter, que ce soit en commission ou que ce soit dans l'hémicycle. On a eu un président des commissions des finances, pardonnez-moi du peu.
Donc vous êtes prêt à faire partie d'une majorité plurielle ? Quand je vous entends, c'est ce que je me dis. Non, avec des macronistes.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous avez une proposition de loi ou une réforme qui prend en compte les propositions que la gauche fait et que la France insoumise peut faire, on peut trouver des majorités de vote à l'Assemblée nationale, voire des majorités relatives. Par exemple, j'ai voté les jardins d'enfants qui venaient d'un député LR. avec y compris des députés du Rassemblement national qui l'ont voté. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement de campagne. Donc, vous savez, l'Assemblée nationale, ce n'est pas ce qu'on en déteint, ce n'est pas ce qu'on en dit. Il y a des majorités qui peuvent se constituer dès lors qu'on met les intérêts supérieurs au cœur. Et je sens que si vous regardez l'ensemble des votes que nous avons fait, la France insoumise, et au-delà de ça, ce qui constitue aujourd'hui le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale, nous avons été au-delà des caricatures qu'on fait de nous.
Mais il faut quand même dire qu'il y a des textes qui sont des textes comme les jardins d'enfants, comme des textes importants. Je ne sais pas que je les minimise, mais le cœur de la décision parlementaire, ce sont les lois de finances, ce sont les lois de financement de la sécurité sociale, ce sont des textes comme la réforme des retraites. Et là, pardon, mais on va avoir du mal à trouver des consensus. Mais
Madame Bachelot,
si vous voulez mon avis, ça ne va pas être...
Si vous le pensez,
je fais le pari de l'intelligence et je pense que nous pouvons gouverner ce pays autrement que par des 49-3. C'est le projet démocratique que je me pose et en tout cas, c'est l'engagement républicain que nous avons. D'ailleurs, quand vous avez des députés, on va dire du Nouveau Front populaire pour être large, qui se désistent face à M. Darmanin, avec qui nous ne partageons pas grand-chose sur la façon dont nous utilisons les forces de police, parce que nous sommes pour une police de proximité. Quand vous parlez de Mme Aurore Berger, qui a une vision assez particulière de la laïcité que nous ne partageons pas, eh bien nous avons eu le courage de retirer nos candidats, parce que nous pensons que ce qui nous réunit sur les valeurs que nous partageons est bien plus important que ce qui nous sépare, et que le débat démocratique doit avoir lieu. Mais manifestement,
c'est pas le gouvernement.
Mais nous pensons que le débat démocratique ne doit pas être tranché à coup de 49-3, en particulier sur la réforme des retraites, parce que je pense que vous allez peut-être aller là-dessus, mais vous avez 3 millions de personnes qui défilent dans la rue. Nous pensons que ce n'est pas nous qui avons créé le chaos en France.
En tout cas, l'enjeu est bien de redonner le pouvoir à l'Assemblée nationale et aux députés.
D'ordonner le pouvoir à l'Assemblée nationale.
Nous sommes des parlementaires, M. Calvi. Nous sommes des parlementaires.
Ah, pardonnez-moi. Merci, j'étais un peu surpris.
En fait, si je peux me permettre, les pays que vous citez où il y a des consensus, c'est parce que ce sont des régimes qui sont parlementaires. Et nous devons sortir de cette logique-là présidentialisée dans laquelle nous sommes.
Bernard Sananès, selon Gabriel Attal, à l'issue de ces législatives, il y aura une gouvernance et une manière de fonctionner nouvelle. Est-ce que ça veut dire qu'il acte selon lui l'impossibilité pour le RN d'avoir une majorité absolue? Peut-on y voir, enfin voilà, un peu plus clair avec cette hypothèse? Comment vous percevez les choses?
On peut lire ce propos...
Il fait aussi de la pensée magique.
On peut lire ce propos de facettes. Il y en a une première qui est effectivement d'essayer de montrer que le RN n'aura pas de majorité absolue, ce qui est l'hypothèse, nous l'avons dit dès dimanche, la plus probable, que le RN n'ait pas de majorité
absolue. Ça reste la plus probable ce soir?
Tout à fait, et c'est vrai qu'avec les désistements...
Y compris avec les désistements?
Oui, encore plus avec les désistements. Vos confrères, j'ai devant moi... le décompte de ceux de vos confrères des Échos qui annoncent 218 désistements sur 306 triangulaires.
Oui, le Monde donne le même décompte.
Voilà, donc on est à peu près dans une fourchette de 80 triangulaires qui resteraient. Le nombre serait quand même très important. Il devrait tangenter, peut-être dépasser le record de 1997.
On évoque 95 triangulaires éventuels aussi.
80,
alors,
excusez-moi.
C'est pas bien ça.
Je ne suis pas là. Hein.
97... Elles étaient 79 en 1997. Oui. Mais pour répondre à votre question, donc c'est un message aussi qui acte cet état nouveau lié au désistement. C'est aussi un message à l'égard d'Emmanuel Macron quand on parle de gouvernance nouvelle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que là, c'est une gouvernance moins jupitérienne, peut-être, à laquelle pensait M. Attal. Une gouvernance qui laisse
plus de place. Il est président de la République, de la 5e République, ça marche comme ça.
Oui, mais la manière dont les discussions sont faites, par exemple, on a souvent traité la question des retraites... Comment les corps intermédiaires considèrent qu'ils n'ont pas été associés à la réforme des retraites. Chez Macron, je parle là dans une lecture de l'opinion. Je vous donne ce qui remonte des enquêtes. C'est vrai que l'aspect 49-3 plus réforme des retraites a beaucoup pesé sur l'image d'une gouvernance personnelle.
Gardez la parole, mais est-ce que ce front républicain monté en deux jours ressemble à ce qui a pu se passer dans d'autres scrutins précédemment? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Est-ce que ça fonctionne par ailleurs?
Ça fonctionne de moins en moins.
Non au RN. Voilà.
Jusque-là, c'est vrai qu'il y a eu un front républicain qui a fonctionné très bien. Son paroxysme a été en 2002, évidemment, face à la candidature au second tour, à l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Puis le front républicain a reculé. On a vu, et notamment en 2022, que les reports se faisaient moins bien. Ils se faisaient moins bien à tel point qu'on a observé même des phénomènes qui étaient très nouveaux, minoritaires mais très nouveaux. Des électeurs RN qui parfois allaient voter France Insoumise ou des électeurs France Insoumise qui parfois allaient voter RN, encore une fois, dans une part très minoritaire, mais parce qu'ils voulaient dire non.
25% des membres des sympathisants de la CGT votent RN. Hein.
Dire non à la réforme des retraites ou dire non à Emmanuel Macron. Et c'est vrai que là, dimanche, on verra si le Front républicain se reconstitue. Pour l'instant, il s'est reconstitué dans les états-majors. Ça, c'est incontestable et c'est un fait politique. Il s'est reconstitué de manière très nette. Le Nini a reculé au profit du Front républicain. rien. On verra dimanche ce que les électeurs font de cette consigne.
Je précise à Roselyne Bachelot qu'on dit la même chose de Force ouvrière.
Caroline Janvier. Force ouvrière, ça a toujours été un cadeau.
Voilà.
Mais... j'étais quand même. Non, mais je devais vous faire une leçon sur la composition.
Par équité vis-à-vis de la CGT, je devais vous le faire remarquer. Caroline Janvier, le RN a déjà 39 élus. 258 candidats qui sont par ailleurs arrivés en tête dimanche dernier. Plus de 10 millions de personnes qui ont voté pour le parti et ses alliés. Est-ce que vous craignez des tensions s'ils n'arrivent pas au pouvoir? Je sais que vous les combattez, hein, mais voilà. Est-ce que vous craignez des tensions?
Non, au contraire, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de tensions s'ils arrivaient au pouvoir. Parce qu'encore une fois, une majorité de Français, 60%, j'ai vu, ne souhaitent pas que le RN accède au pouvoir. Et c'est bien pour ça que ces désistements se mettent en place assez rapidement. La difficulté, c'est qu'en réalité, la mécanique, le fait majoritaire avec ce scrutin uninominal à deux tours, aurait cette fois pu faire accéder le RN au pouvoir, alors même qu'il ne correspond qu'à la volonté d'un tiers des Français.
Christophe Barbier, l'autre idée qu'est en train de développer Marine Le Pen, c'est celle d'un coup d'État administratif, enfin, je trouve ça extraordinaire, qui serait en train d'être mise en place par Emmanuel Macron à l'Élysée, on l'accuse de perdre son sang-froid. De quoi parle-t-elle exactement et est-ce crédible?
Étrange concept. De quoi parle-t-elle? D'une série de nominations qui permettraient...
Fait pour bloquer le programme du RN, en gros.
Qui permettrait au président, d'après elle, de tisser une sorte de filet de hauts fonctionnaires soumis à l'Élysée contre le gouvernement et qui en effet bloquerait...
Après avoir provoqué la chute, il mettrait le filet. Donc,
voilà, et puis ces fonctionnaires bloqueraient les décisions du gouvernement, voire les lois votées par le Parlement. Des recteurs, des préfets, le directeur général de la police nationale, etc. Ça n'a pas vraiment de sens, puisque les hauts fonctionnaires, quel que soit leur poste, ont un devoir de loyauté à l'égard de l'autorité politique, ministérielle, et puis bien entendu de respect de la loi. Mais ça veut dire quelque chose du message politique de Marine Le Pen. Ça en dit deux choses. D'abord, qu'elle développe un discours qui est assez trumpiste. Parce que l'État profond, c'est aussi un argument de Trump. J'ai le pouvoir, les citoyens ont voté pour moi, mais regardez, le système a mis en place un État profond qui bloque tout. Deuxièmement, elle est, depuis la semaine dernière, en parlant d'honorifique pour les responsabilités militaires du chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui avec ce coup d'État, elle est dans la volonté de braquer le président, d'instaurer un bras de fer, un rapport de force, pour qu'il se soumette ou se démette. Et si possible... pour qu'il se démette. C'est-à-dire qu'on ait assez rapidement une crise politique qui devienne une crise de régime et que cette crise de régime aboutisse à une présidentielle anticipée. Pourquoi? Parce que si le RN gouverne et échoue, ça nuira à sa candidature. Et si Bardella gouverne et réussit, ça sera son baladure. Et ça nuira aussi à sa candidature. Elle a envie de profiter de cette crise politique ouverte par la dissolution pour la catalyser et aboutir à une crise de régime qui annonce une présidentielle anticipée.
Vous avez été plusieurs fois ministre, Roselyne Bachelot.
Oui.
Cet état profond qui pourrait bloquer tout. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, existe ou
on ne bloque pas, Roselyne.
C'est du complotisme. Il y a une forme de réalité.
Moi, j'ai été.
Est-ce que vous avez des administrations qui vous ont empêché de travailler comme vous le vouliez?
J'ai été député dans l'opposition, beaucoup plus d'ailleurs dans l'opposition que dans la majorité. Oui. J'ai donc été également en même temps élu local avec des responsabilités exécutives. Moi, j'ai rencontré des fonctionnaires qui étaient loyaux vis-à-vis du gouvernement. Franchement, j'ai pas rencontré de gens qui bloquaient la politique du gouvernement. Il y avait des préfets qui étaient de droite. Pendant les 5 ans du gouvernement Jospin, ils ont été d'une loyauté absolue. Et j'ai eu les cohabitations de Chirac et de Balladur.
C'est de la paranoïa, ce qu'exprime, ou c'est de la stratégie, ce qu'exprime Marine Le Pen?
Oui, c'est de la paranoïa.
Et du complotisme.
Exactement.
Une forme de complotisme?
Bien sûr, c'est du complotisme. Moi, j'ai eu à travailler en tant que responsable associatif avec des hauts fonctionnaires d'État. Ils ont toujours respecté les règles de la République, y compris quand elles ne convenaient pas aux ministres en place. Donc, évidemment que c'est leur rôle, c'est leur honneur. D'ailleurs, la fonction publique française s'honore de ça. Et je pense que tous les pays du monde nous regardent et nous envient ces hauts fonctionnaires d'État qui, on peut ne pas être d'accord quand il y a des prédispositions personnelles, mais dans le cadre de leur fonction, ont toujours assuré le bon fonctionnement de la République.
Il y a des lois qui sont votées par une majorité et ils les appliquent.
Juste sur le plan du suivi de la campagne, d'une dynamique de campagne plus compliquée pour le second tour, pour le Rassemblement national, que pour le premier tour. Le premier tour, le Rassemblement national semble donner l'impression de faire la marche en tête et de ne pas avoir, j'allais pas dire d'opposition.
Mais en tout cas, de s'être un peu baladé.
Voilà, exactement. Là, on voit bien que, on parlait tout à l'heure, depuis la fin de la semaine dernière, plusieurs polémiques, les discussions ont quand même déjà coûté un point ou deux en fin de semaine par rapport au sondage qui était annoncé. Oui. Et puis, on voit bien que cette dynamique de second tour, elle est très importante. On a connu des majorités annoncées qui, je me souviens par exemple de l'exemple de 2007, hein, Roselyne Bachelot doit s'en souvenir également, de la polémique sur la TVA sociale, vous vous en souvenez, eh bien, qui avait coûté 40 sièges, 40 sièges à la majorité, qui était restée la majorité, mais 40 sièges de moins par rapport aux prévisions. Donc c'est vrai que le RN semble, on verra dans les quelques jours et dans les prochaines enquêtes, puisque nous allons publier une dernière enquête vendredi, si il a gardé la même dynamique ou pas qu'au premier tour.
Ça montre une chose, c'est que soit Mme Le Pen est complotiste, soit elle ne connaît pas le fonctionnement de l'administration française, les deux explications n'étant pas exclusives l'une de l'autre.
Ou alors qu'elle a intégré la défaite, ce qui me semble la possibilité la plus probable.
Alors vous
venez de dégoupiller trois petites grenades, on va en rester là. Merci
infiniment, je suis député, Madame
les uns et les autres, d'avoir participé à ce débat.